La paix du Seigneur soit avec vous encore une fois, frères et sœurs.
Amen.
Eh bien, nous allons commencer. On l'avait effleuré dimanche dernier. On va commencer d'emblée à prêcher sur le thème que le Seigneur nous a mis à cœur pour l'année 2019 aujourd'hui. Nous allons baliser le terrain, préparer les cœurs, les esprits, les intelligences à mieux comprendre dans le futur de quoi nous parlerons lorsqu'il sera question, eh bien, de prêcher sur ce thème qui dit « Rendons gloire à Dieu dans tous les aspects de notre vie. » Si vous voulez, vous pouvez le dire autrement. Glorifions Dieu dans tous les aspects de notre vie. Aujourd'hui, pour baliser le terrain, je vais traiter de la réalité de la gloire de Dieu. On n'est pas encore dans rendre gloire à Dieu. On va juste enseigner sur la réalité de la gloire de Dieu. Pour ce faire, nous allons regarder dans le psaume 96, d'où est tiré le thème annuel, quelques versets. Et ce ne sera pas nécessairement le texte, l'unique texte sur lequel je vais prêcher. Mais étant donné que c'est le texte d'où est tiré le thème annuel, nous allons le regarder. Nous allons lire, on peut lire seulement les 8 premiers versets à la gloire du Seigneur. Psaume 96, versets 1 à 8, à la gloire du Seigneur. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Notez bien, racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples, ses merveilles. Et l'auteur d'en donner la raison au verset 4. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux sont des idoles, des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. C'est là, frères et sœurs, que s'arrête la lecture de la sainte et agréable parole du Seigneur pour l'édification commune de nos âmes. Veuillez vous rasseoir. L'auteur du psaume 16, à ce que nous remarquons, frères et sœurs, fait preuve d'une grande insistance sur la gloire de Dieu. Nous l'avons remarqué. Dans l'invitatoire, ou du moins dans l'introduction de l'invitatoire, verset 3, il dit: racontez parmi les nations sa gloire. En parlant de la gloire de l'Éternel, de la gloire du Seigneur. Au verset 7 à 8, le Saint-Esprit à travers lui continue de se faire insistant en disant, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel, verset 8, gloire au son nom. Il s'est fait insistant, dis-je. Mais nous pouvons remarquer que l'auteur du psaume 96 n'est pas le seul auteur biblique à mettre l'accent, à insister sur la nécessité pour le peuple de Dieu de rendre gloire à Dieu, frères et sœurs. Dans Deutéronome 32, les versets 3 à 4, Moïse eut déjà à dire, « Je proclamerai le nom de l'Éternel, Exode 32, versets 3 à 4. Je proclamerai le nom de l'Éternel. Et pour vous faire grâce, il dit, rendez gloire à notre Dieu. Et lui, comme l'auteur du psaume 96, de donner les raisons, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Nous aurons le temps de regarder toutes ces choses. Il est juste et droit. Le Nouveau Testament n'est pas en reste par rapport à l'insistance sur la nécessité pour le peuple de Dieu de rendre gloire à Dieu. Saint Paul, écrivant aux frères et sœurs de Corinthe, leur dit en 1 Corinthiens 10, le verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre ou quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc, nous comprenons, frères et sœurs, qu'entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a un parfait accord, eh bien, pour faire comprendre au peuple de Dieu que notre but principal, le sens de la vie pour nous, tourne autour, eh bien, de la gloire de Dieu. Le but principal de chaque chrétien, le but principal de chaque église, le but principal de chaque homme, chaque femme, c'est de rendre gloire à Dieu. Et l'enfant de Dieu, frères et sœurs, est appelé à rendre gloire à Dieu tout temps et en toute chose. L'année contient 52 dimanches. Nous aurons le temps, bien sûr, si le Seigneur nous prête vie, de décortiquer, de creuser à fond, en profondeur, si vous voulez, cette question de rendre gloire à Dieu. J'aurai la grâce de vous entretenir sur la signification, sur, je dirais, la manière dont le peuple de Dieu est invité à rendre gloire à Dieu. Comment Dieu veut que nous lui rendions gloire? Nous ne rendons pas gloire à Dieu à notre manière. Nous rendons gloire à Dieu à sa manière. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, frères et sœurs? Dieu ne laisse pas son peuple dans l'ignorance quant à la manière de lui rendre gloire. Le même Dieu qui nous invite à lui rendre gloire, il nous dit comment le faire, en sorte que si nous rendons gloire à Dieu d'une manière qui n'est pas conforme à sa volonté, eh bien, nous ne rendons pas gloire à Dieu du tout. On est là, frères et sœurs. Je vous reviens dans le Seigneur et pour sa gloire, s'il me prête vie, pour expliquer ce que c'est que rendre gloire à Dieu. Mais d'abord, et avant tout, aujourd'hui, nous allons commencer par vous entretenir, comme je l'ai expliqué en introduction, en préliminaire plutôt. Qu'est-ce que c'est que ça, la gloire de Dieu? On va rendre gloire à Dieu, c'est une chose. Mais je viens de l'établir. L'Écriture nous montre que il faut rendre gloire à Dieu. Nous allons regarder d'abord la réalité même de la gloire de Dieu. Songez, oui. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans rendre gloire à Dieu. Nous ne sommes pas là. Peut-être même dans 3 dimanches, nous ne serons pas là, ou 4. On va être dans la réalité même de la gloire de Dieu. Ça va, frères et sœurs? Donc, c'est un contrat pédagogique ou bien didactique que j'établis avec vous. Hein? Puisque le sens de la vie pour le chrétien passe par la gloire de Dieu, s'appuie, est défini par la gloire de Dieu, pour moi, il est indispensable pour nous de savoir, eh bien, la réalité de la gloire de Dieu et ses implications. C'est ce que j'ai l'intention de faire aujourd'hui. La réalité de la gloire de Dieu, frères et sœurs, on va regarder ça d'abord. Qu'est-ce que ça implique, la réalité de la gloire de Dieu? Ce que ça implique, que vous devez savoir ou vous rappeler, c'est que d'après l'Écriture, Dieu a une gloire. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Pas oublier. D'après l'Écriture, Dieu a une gloire déjà. On va voir ça. Et non seulement Dieu a une gloire, mais Dieu a la gloire. C'est pas pareil. Et non seulement Dieu a la gloire, mais Dieu est la gloire. Dieu a une gloire. Dieu a la gloire et Dieu est la gloire de ce que nous comprenons de l'Écriture, frères et sœurs. Et les passages qui établissent cette réalité n'en manquent pas dans l'Écriture. Mais pour des raisons liées à la contrainte du temps, je vais en regarder quelques-uns avec vous. Quelques-uns de ces passages qui établissent clairement que Dieu a la gloire, il est la gloire, il a une gloire. Plus près de nous, le texte introductif de la série, le psaume 96, en son verset 6, nous dit la gloire et la majesté. Régis, s'il te plaît. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Est-ce que l'Église est là? Le sanctuaire dont il est question est le sanctuaire de l'Éternel, son tabernacle céleste. Est-ce qu'on est là à l'Église? À 1 Chronique 29, versets 11 à 12, David va faire mention du fait que Dieu a la gloire. Lorsque, en priant Dieu, il dit « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. » Ce n'est pas l'Église qui va rendre Dieu glorieux, qui va donner gloire à Dieu pour que Dieu apprenne à avoir la gloire. Dieu est un être glorieux. D'abord, être divin au sens du Dieu biblique, au sens du Dieu trois fois, c'est être glorieux. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Et l'homme de Dieu de continuer à dire, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Dans le psaume 19, le verset 1er, un des textes les plus connus de l'Écriture, le psalmiste dit, les cieux font quoi, frères et sœurs? Raconte la gloire de Dieu. Le prophète Ésaïe dira dans le et de la part du Saint-Esprit, et dans Ésaïe 48, verset 11, Dieu dira lui-même de sa bouche qu'il a une gloire. En disant, Ésaïe 48, verset 11, je ne donnerai pas quoi? Qui bagaille? Ma gloire à un autre. Je vous dis la vérité. Dieu a une gloire. Dieu a la gloire. Dans le psaume 24, les versets 16 à 10, 7 à 10, frères et sœurs, que voyons-nous? L'Écriture précise que Dieu est un être glorieux. Je vous dis vrai. Connaissez bien ce texte. Porte, élevez vos lettres. Élevez-vous. Portes éternelles. Pourquoi? Que le roi de gloire fasse son nom. Je vous dis, Dieu est un Dieu de gloire. Dieu est un Dieu de gloire. Et comme si ce n'était pas clair, et remarquez bien, c'est important pour le Saint-Esprit, il insiste énormément. Le mot gloire est répété dans l'Écriture plus de 400 fois, hein? Ce qui amène cet interrogé à dire que ce n'est pas Jésus le thème central, je ne suis pas d'accord. Je m'inscris en faux, mais ça a du sens. Ce n'est pas Jésus qui est le thème central de la Bible, c'est plutôt la gloire de Dieu. Ça va là, frères et sœurs? Plus de 400 occurrences. Et comme si ce n'était pas clair pour le Saint-Esprit de Dieu, moi non, c'est pour nous, le Saint-Esprit renforce, renchérit. Qui est ce roi de gloire, l'oratoire? Et le texte lui répond, l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte. Élevez vos lettres. Fais passage pour le roi de gloire. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Élevez vos lettres. Ouvre ton cœur à ce que Jésus rentre dans ton cœur. Car c'est lui le Fils de Dieu, le roi de gloire. Ouvre ton cœur. Porte. Élevez vos lettres. Élevez-les. Que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui donc est ce roi de gloire, l'oratoire? Éternel les appels. Voilà, le roi de gloire. Je vous fais grâce du reste des occurrences, des références mentionnant la gloire de Dieu, qui mettent en évidence que Dieu est un Dieu de gloire. Mais je vais juste au passage, et j'aime faire ça quand je fais une étude, une prédication thématique comme cela, une étude thématique, oui, un sermon thématique, essayer d'attirer votre attention sur le fait que le Nouveau Testament, eh bien, s'accorde avec l'Ancien Testament sur le sujet. Donc, pour cela, pour étudiants qui l'aillent, comprenez cela, c'est important pour l'auditoire. On va prendre seulement 1 Corinthiens 2, le verset 8. L'Ancien Testament va dire que l'Éternel est un être glorieux. Saint Paul va parler dans 1 Corinthiens 2, le verset 8, du Seigneur en disant le Seigneur de gloire. Est-ce qu'on est là? Le Seigneur de gloire. Et Saint-Pierre, en 1 Pierre chapitre 4, verset 14, lui, va parler du Saint-Esprit de Dieu comme étant l'Esprit de gloire. Est-ce qu'on est là, l'oratoire? Donc la boucle est bouclée. Dieu est un Dieu de gloire. Répétez ça. Dieu est un Dieu de gloire. Dieu est un Dieu de gloire. Mais je me demande, combien savent réellement ce qu'est la gloire de Dieu? Cette gloire que Dieu dit qu'il possède de toute éternité. Qu'est-ce que ça veut dire, la gloire de Dieu? Est-ce que ça ne pourrait pas changer quelque chose dans la vie chrétienne? Si on savait, si on saisissait la portée, le sens, la valeur, la signification de la réalité de la gloire de Dieu, peut-être que ça pourrait changer quelque chose. On chante la gloire de Dieu. On vient de le faire avec sous l'égide de notre bien-aimé frère Adouin et les choristes. On vient, frères et sœurs, et de parler, de lire sur la gloire de Dieu. Dans la littérature chrétienne, la gloire de Dieu abonde. Dans nos conversations, la gloire de Dieu abonde. Mais qu'est-ce donc au juste la gloire de Dieu, l'oratoire? Qu'est-ce que la gloire de Dieu? On va faire ça plus ou moins court. Si je n'ai pas terminé, on y revient. On ne va pas presser du tout. On va regarder. Il y a sept mots en hébreu qui nous aident par leur origine, leur racine, ou bien leur étymologie, à comprendre la réalité de la gloire de Dieu. On va les regarder ensemble. Le premier mot, c'est le mot Adar. Cet Adar-là, c'est une A-D-A-R, parce qu'il y a un autre qu'on va voir en bas, pour pas que tu dis que le pasteur répète. L'autre, il s'écrit H-A-D-A-R. On va voir le premier Adar. Adar. Ça va, frères et sœurs? Adar. Adar signifie augmenter. Dans l'étymologie hébraïque. Être large. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Adar signifie être grand. Et la parole de Dieu va mentionner le terme Adar, si vous lisez la Bible en hébreu, pour parler de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Être large, être grand, augmenter. Et on va le trouver dans le texte biblique original de l'Ancien Testament pour parler de la gloire de Dieu. Alors, ça commence à nous aider à comprendre que quelque chose. Nous trouvons le mot Adar dans Exode 15, le verset 11, où Moïse l'utilise pour décrire Dieu en disant, Exode 15, le verset 11, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ?» Éternel. Qui est comme toi? Voici Adar. Magnifique, en latin, magnus, magni, signifie grand. Est-ce qu'on est là? Magnifique en sainteté. Adar est là, dans magnifique en sainteté. Digne de louange, opérant des prodiges. Donc, le peuple de Dieu comprend très bien que dans ce passage, ou alors suivant ce passage, la gloire de Dieu est la magnificence de Dieu. Est-ce qu'on est là, le peuple de Dieu? La gloire de Dieu est la grandeur de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'unicité de Dieu, le fait que Dieu est unique, ou bien l'incomparabilité de Dieu, le fait que Dieu est incomparable. Quand Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, il est en train de dire que je ne donnerai pas ma grandeur à un autre. Il est en train de dire que je ne donnerai pas ma magnificence à un autre. Je ne changerai pas mon caractère. Je ne donnerai pas à un autre mon caractère. C'est moi seul qui appartient mon caractère, mon essence. Adar, dans ce texte, place Dieu dans une catégorie à part, particulièrement en sainteté, puisqu'il parle de magnifique en sainteté, glorieux en sainteté. Est-ce que le peuple de Dieu est là, frères et sœurs? Le deuxième mot, c'est Géout. Géout. Géout, ou Géout, signifie être élevé, frères et sœurs. Géout signifie excellence. Géout signifie majesté. Géout signifie splendeur. C'est cette idée de majesté, de Géout, de splendeur, d'excellence, d'être élevé, que David a exprimé dans le psaume 93, le verset 1, quand il dit « L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. » Moïse fera de même dans Exode 15, le verset 1, en disant « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater son Géout, sa gloire, c'est-à-dire sa majesté, sa splendeur, son excellence. » Car il est élevé. Gaba, maintenant, on est rendu à trois mots. Gaba. Gaba, tout près de Géou, signifie lui-même exalté. Dans exalté, il y a l'idée de haut, haut placé, élevé aussi. C'est ce thème, le thème de Gaba, que David va utiliser dans le psaume 113, le verset 5, quand il va dire qui est semblable à l'Éternel notre Dieu, il est élevé. Il a sa demeure en haut. Et on est rendu à Adar, H-A-D-A-R. Adar. Tout près de magnificence qu'on a vu tout à l'heure, Adar, H-A-D-A-R, il signifie ornement. Il signifie splendeur. Voilà pourquoi on parle de Jésus comme étant le roi de gloire. Parce que quand on parle de royauté, on est dans le chapitre de la magnificence, de la majesté. On est dans le chapitre eh bien, de la grandeur, frères et sœurs. Dans le psaume 45, le verset 5, lorsqu'il dit, « Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes mères, tes mères. » Cela reflète l'idée d'honneur. Il y a cinquièmement le mot « aude » qui lui-même signifie grandeur directement. Aude parle de la gloire de Dieu en termes de grandeur, mais une grandeur qui fait que Dieu est insaisissable à l'esprit humain, que l'esprit humain, que les hommes ne peuvent pas comprendre un bon Dieu, un tel Dieu, frères et sœurs. Nous trouvons aude pour la gloire de Dieu dans Job 37, les versets 22 à 23, dans la bouche d'Élihu, lorsqu'il dit « Oh, que la majesté de Dieu est redoutable. Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. » La régie devrait vous aider, mais il est seul en haut, on va être patient. Il a les références à afficher pour vous. Sixième mot, pa'ar. Pa'ar, comme gaba, parle de ornement également. Ça fait allusion à la beauté esthétique de Dieu. Lorsque le psaume 19 dit dans le verset 1er, les cieux racontent la gloire de Dieu, il parle de la gloire sous tous ses angles. La gloire comme grandeur, la gloire comme magnificence. La gloire également comme sens de l'esthétique. Le Dieu que nous servons a le sens du beau, frères et sœurs. Il a un sens esthétique infini, frères et sœurs. Et le sens esthétique de Dieu paraît dans la création. Voilà pourquoi le texte dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est perceptible dans les cieux. Et sur la terre également. Et Pa'ar se retrouve dans le psaume 71, le verset 8. Quand le psalmiste dit que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, elle te glorifie. Par ces six mots, ces six étymologies, nous comprenons que la gloire de Dieu a plusieurs facettes, plusieurs aspects. Je les résume. Les prodiges de Dieu, la beauté de Dieu, la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu, la magnificence de Dieu, la toute-puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, la sainteté de Dieu, et la souveraineté de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire que Dieu dit qu'il possède. Signifie tout ça. Vous êtes presque arrivés. Il nous reste un dernier terme. C'est le terme kabod. Kabod dans sa racine, ou gloire, qui traduit gloire. Kabod signifie lourd. Le Dieu que nous servons est lourd, frères et sœurs. C'est un bulldozer, c'est un poids lourd. Il est lourd, il a une lourdeur extrême, infinie, frères et sœurs. Si quelqu'un ne peut pas charger ton Dieu et le frapper à terre, il ne peut pas te charger et te frapper à terre. Tu es renfermé dans la lourdeur de ton Dieu. Tu hérites de la lourdeur de ton Dieu. Tu hérites de la gloire de ton Dieu. Est-ce que l'Église est là, frères et sœurs? Dieu est un poids lourd. Il est lourd. Voilà pourquoi même si tu es faible, dès que tu sers ce Dieu, il faut même regarder où l'eau compte 50. Seulement regarder, même si maladie veut finir avec vous, et vous branchez dans mon Dieu ça, où l'eau dans où l'on croise, 50. Pas petit missant d'accord. C'est vous péché, mais ton Dieu est l'eau. Ton Dieu. Gardez ça ton danger, dis pas peur. Gardez tes adversaires, tes persécuteurs, dis pas peur. Moi, je me prends, mais bon Dieu, je m'en loue. ailleurs dans son cabot. Exode 33, verset 34, nous expliquera, nous dira davantage sur le cabot. C'est important ce texte-là. C'est peut-être le plus important de tous les textes que je vais nommer. Est-ce que Régis est capable de nous les afficher? C'est très, très, très important. Parce que dans ce texte, frères et sœurs, Dieu va lui-même, ou être depuis tout à l'heure là, vous avez vu, depuis tantôt, j'évoquais des passages, j'expliquais, je donnais des références, puis j'expliquais. Mais ici, Dieu lui-même va dire c'est quoi la gloire de Dieu lui-même. Et la définition de Dieu compte davantage, hein, frères et sœurs, on est d'accord avec ça? Il va lui-même dire c'est quoi la gloire de Dieu dans ces deux textes, dans ces deux passages-là. Exode 33 à 34. Il faut avoir bon l'esprit de Dieu pour voir ça. Il faut avoir le bon esprit de Dieu pour voir cela. Mais c'est ce que Dieu fait. Il va lui-même définir sa gloire. Dans Exode 33, verset 34. Pardon, Exode 33 à 34. Les deux passages très longs. D'abord, on commence avec 33, verset 12 à 13. Si seulement Régis pouvait m'afficher. Oh, gloire à Dieu. Voilà. Voilà, ok. Merci Régis. Tu as bien fait d'économiser ton énergie pour ces versets-là. Exode 33, verset 12 à 13. D'abord, on commence avec ça. Où Dieu va lui-même définir c'est quoi sa gloire. Vous vous rappelez le contexte peut-être de Exode 33 à 34. Moïse avait pour mission, comme vous le savez, de conduire un peuple rebelle. Le peuple ne veut rien savoir de Dieu. Et c'est Moïse qui doit conduire ce même peuple, frères et sœurs. On est d'accord avec cela? Et Moïse savait que, humainement parlant, cette mission était impossible. Il le savait. C'est un homme de Dieu. Il est au bénéfice de la gloire de Dieu. Donc il le savait. Et parce qu'il le savait, frères et sœurs, eh bien, Moïse dit à Dieu, j'ai besoin d'aide. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Il dit, j'ai besoin d'aide. Mais dans sa tête à lui, ce n'était pas de n'importe quelle aide il s'agissait. Il s'agissait de l'aide directe de Dieu. C'était la personne même de Dieu qu'il voulait comme aide. Est-ce qu'on est là, peuple de Dieu? Songez. Et puis, Moïse dit à Dieu, dans Exode 12 à 13, voici, Seigneur, tu me dis, fais monter ce peuple. Dieu lui a dit ça au verset premier. Hein? Fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Amen. Suivez bien ici. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Il parle à son Dieu. Et toi-même, Seigneur, tu m'as dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. C'est intelligent, hein? Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Voyez comment quand quelqu'un est loin par le Saint-Esprit de Dieu, même dans nos prières, nous sommes intelligents, frères et sœurs. Quel beau deal! Et frères et sœurs, vous connaissez mon Dieu. Vous connaissez votre Dieu. Verset 14 à 17, Régis. Verset 14 à 17. L'Éternel répondit Moïse en disant, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. C'est pas sous ça me prêcher aujourd'hui. Mais laissez-moi dire que si tu es un enfant de Dieu, l'Éternel lui-même marche avec toi en ce moment.
Amen.
Il marchera avec toi en 2019, comme je vous l'avais dit. Il marchera avec toi en 2020. Il marchera avec toi en 2021. Il sera même avec toi dans le tombeau, frère.
Amen.
Il sera même dans le tombeau. Je marcherai moi-même. Ça aurait pu être par l'intermédiaire d'un ange. Non, moi-même. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ça aurait pu être par l'intermédiaire de Séraphin, d'un archange. Mais non. Quand il est question des affaires des enfants de Dieu, Dieu est présent, frères et sœurs. Je marcherai moi-même avec toi. Parce qu'il connaît bien. Mieux que Moïse, la situation de Moïse. Avant même que Moïse te vienne dire ça, il te connaissait quoi la situation de Moïse. Moïse lui dit, Si tu, il prend Dieu au mot. Il prend Dieu au mot. Apprenons à prendre Dieu au mot, frères et sœurs. Si tu ne marches pas toi-même avec moi, mais Dieu l'a déjà dit, qu'il marchera avec toi. Et croyez-vous, il saute sur l'occasion, frères et sœurs. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Encore une fois, la longanimité de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Laissez-moi vous dire, à l'Éternel ce que tu veux. Et si vous et moi, nous demandions plus à l'Éternel ce que nous voulons, frères et sœurs, que de nous fâcher contre ce qui est arrivé, hein, frères et sœurs. Demande-moi ce que tu veux, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. On va l'expliquer à la fin. Mais tout ce qui est dit ici de Moïse est vrai pour chaque monde qui est là. Dieu te connaît par ton nom. Et tu as trouvé grâce à ses yeux en Jésus de Nazareth. Bon, Moïse saute sur l'occasion. Il dit, mais si c'est ça, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Au verset 18. Ça va, frères et sœurs? Puisque tu me demandes pour ce que je veux, Seigneur, parce que j'ai trouvé grâce à tes yeux, bon, ce que je veux, c'est voir ta gloire. Dans ton problème, essaie donc de dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Dans tes projets, dans tes aspirations, dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux que ta gloire brille dans ma vie. Bon. Verset 18, fais-moi voir ta gloire. Moi, ça me demande. C'est où tu demandes, ça me plaît. Alors, moi, je demande pour moi gloire. Je suis très intelligent. Et Dieu, en réponse, lui dit, versets 21 à 23. La définition est là, suivez bien. J'ai dit, je suis en train de t'expliquer c'est quoi la gloire de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, j'ai passé plusieurs textes en revue, je suis allé dans l'étymologie, on a compris quelque chose. J'ai dit, c'est correct, c'est biblique la démarche. Mais Dieu va le dire directement c'est quoi sa gloire. Suis bien, on est là, on arrive, on est là. Moïse dit au verset 18, fais-moi voir ta... Pas oublier nos frères et sœurs. C'est ça, Moïse m'a demandé. Fais-moi voir ta gloire. Regardez ce que Dieu dit. Verset 21. Et à continuer. Tu ne pourras pas voir ma face. Mais il te demande, mon Dieu, face. On a demandé à Dieu gloire. Dieu est rendu qui? Il ne comprend pas quand on lui parle. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Mais c'est la gloire que Moïse a demandé à voir. Ce n'est pas la face. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut, cette fois-ci c'est pas face encore non, ne peut me voir. Ah. Une chose est certaine, Dieu comprend le langage humain. Dieu comprend même les soupirs. Même quand on ne parle pas, Dieu comprend ce qu'on veut dire. On est là avec ça. Alors si Dieu dit, tu ne peux pas voir ma face, dans sa tête, à lui, sa gloire, c'est sa face. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu commence à comprendre l'histoire? Ah, si c'était ça, bon, on va dire, il n'a pas entendu, probablement, il était distrait, ou il n'a pas compris ce que je lui ai demandé, mais c'est Dieu. Et il comprend. Il comprend. C'est plutôt que, dans sa compréhension à lui de sa gloire, dans sa description, dans sa définition à lui de sa gloire, c'est sa face. Et mieux encore, sa gloire, c'est lui-même. Parce que, après avoir dit, tu ne peux pas voir ma face, il renchérit en disant, tu ne peux me voir. Donc, ma gloire, c'est moi. Est-ce que le peuple de Dieu est là?
Amen.
Ma gloire, c'est moi. C'est pas terminé. Même si la leçon est déjà passée. Dieu dira au verset 21, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, pour Dieu, tantôt c'est face, tantôt c'est lui-même, tantôt c'est sa gloire.
Dans sa tête à lui, c'est pareil. Ces mots sont interchangeables. Est-ce qu'on est là à l'oratoire? Quand ma gloire passera, ou alors quand ma face passera, ou alors quand je passerai, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai pas. Ma gloire passera, j'ai passé. Ça veut dire ma gloire, c'est moi. Ça va, frères et sœurs? Voilà, d'après Dieu, la gloire de Dieu, c'est Dieu. Lorsque je retournerai, verset 22, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. La gloire de Dieu, c'est Dieu. La gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la lourdeur, c'est le poids de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'essence même de Dieu. La gloire de Dieu, ce sont l'ensemble des attributs de Dieu. La gloire de Dieu, c'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit de Dieu, frères et sœurs. Mais comme Dieu sait que l'homme ne peut pas voir sa face et vivre, vous savez ce que Dieu va faire? On va s'arrêter là. Il va révéler sa gloire. Il va manifester sa gloire à Moïse de trois façons. Et c'est là l'attente. Il va le faire par la présence des sentiers. Il va le faire par sa parole. Il va le faire par ses œuvres. Est-ce que l'Église est là?
Amen.
Il va le faire, regardez bien, comme l'homme ne peut pas le voir, il va se faire sentir par l'homme. Il va parler à l'homme et il va poser des actions pour que l'homme le voit à travers ses actions comme l'homme le voit à travers la création. Est-ce que l'Église de Dieu est là?
Amen.
Comment Dieu révèle sa gloire? Par la présence des sentiers. Il le fait à travers la colonne de nuée. Est-ce que l'Église est là?
Amen.
La colonne de nuée, ce n'est pas Dieu. La colonne de nuée, ce n'est même pas un symbole de la présence de Dieu. La colonne de nuée, c'est une colonne de fumée qui enveloppe, qui cache la présence de Dieu. Dieu est dans la colonne de nuée, caché, enveloppé, frères et sœurs. Est-ce qu'on est là?
Amen.
Dieu révèle sa gloire par la présence des sentiers. Il va le faire également par sa parole, comme un pasteur, lorsqu'il va donner à Moïse les 10 paroles, les 10 commandements. Bible ça, quand tu ne respectes pas ce qui est là dans ton cerveau, ne l'assuis pas, cerveau ne glorifie pas Dieu. Est-ce que l'Église est là?
Amen.
Et il va le faire également par les œuvres. Il va réaliser. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Rien n'a changé. À part la modalité de la révélation qui a changé, rien n'a changé. Le fond de la révélation n'a pas changé. Jean 1er verset 14. Et la parole, vous n'avez pas entendu? Et la parole a été faite chair. Ah. Présence ressentie. Est-ce que l'Église est là?
Amen.
Présence ressentie. Elle a habité parmi nous. Présence par la parole. L'aide de grâce et de vérité. Présence par les œuvres. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs?
Amen.
Ça veut dire quoi, pasteur, pour que ça aille? Qu'est-ce qu'on va avoir pour la semaine? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gloire de Dieu est à votre portée. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs?
Amen.
Premièrement. Deuxièmement, la gloire de Dieu est en vous. Est-ce que l'Église de Dieu est là?
Amen.
La gloire de Dieu est en vous. Comment, pasteur? Par le truchement du Saint-Esprit de Dieu.
Amen.
Parce que le Saint-Esprit est en vous, la gloire de Dieu est en vous. Vous êtes environné de sa gloire. Vous êtes couvert par sa gloire. Vous êtes couvert par sa puissance, par sa souveraineté. Dans l'Éden, c'était comme ça. Le temps du sommet dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Mais la gloire d'Éden est perdue à la chute, à la désobéissance. Eh bien, le Fils de Dieu, qui est glorifié par Dieu, eh bien, restitue à l'humanité la gloire qu'il a perdue en l'Éden. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Chaque chrétien est enveloppé, est couronné de la gloire de Dieu. Si nous voulons vivre à la lumière de cette gloire, allons-y. Si nous ne voulons pas vivre à la lumière de cette gloire, allons-y. Une chose est certaine, c'est que ceux qui vivent pour la gloire de Dieu ont un résultat et ceux qui vivent en se fiant, en expulsant la gloire de Dieu de leur vie, ils auront un résultat. Est-ce que l'Église de Dieu est là? Donnons vite en fonction de cette gloire dont nous sommes environnés et mieux encore qui est en nous. Les versets sont là. Les versets qui nous expliquent cette réalité mystique, mystérieuse. Ils sont là. Vous coupez le chemin court. Eh bien, je vous le dis comme ça, mais les textes sont là. La gloire de Dieu est en nous, en chaque croyant. Et aussi, la gloire de Dieu est dans chaque église. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs?
Amen.
La gloire de Dieu est dans chaque église. Quand il y a une église,
ou une femme, ou une femme, qui voit plus la gloire de Dieu, à travers lequel le monde et les autres voient plus la gloire de Dieu, c'est qu'il y en a un qui cache la gloire de Dieu, et il y en a un autre qui laisse transparaître la gloire de Dieu. Quand la parole de Dieu nous dit rendre gloire à Dieu, il est en train de nous dire laissez transparaître la gloire de Dieu dans notre vie. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? C'est ce que ça veut dire. Je ne pourrais pas rentrer là-dedans, mais rendre gloire à Dieu, c'est laisser transparaître la gloire de Dieu. Cette gloire dont nous sommes les dépositaires que nous portons, il faut la laisser paraître. Voilà ce qu'on appelle glorifier Dieu. Ben, nous reviendrons. Que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs. Amen.